La rencontre, une enquête de l'inspecteur Mick par Alfred Mortier. Chapitre 1er. Robert de Ward sortit du Carlton Hotel derrière un groom porteur de deux valises jaunes en cuir de luxe et monta dans un taxi. Il était 8 heures du matin et l'avenue des Champs-Élysées était presque déserte. Une brume glaciale de décembre gelait les rares passants, des employés pour la plupart. Robert se félicita de quitter Paris et frémit d'aise à l'idée du joli soleil qui l'attendait sur la Côte d'Azur. Une demi-heure plus tard, il était étalé dans un compartiment vide du rapide et tirait d'un étui en or une cigarette de choix, dont il aspirait avec volupté les premières bouffées, lorsqu'au dernier moment, une minute avant le départ, une jeune femme fit précipitamment irruption. C'était une blonde exquise, impressionnante comme une star de cinéma, que Robert enveloppa d'un regard de connaisseur. Elle avait rejeté son manteau de léopard et son corps étroit, mais modelé, apparaissait gainé dans une robe sport en laine à javanes d'un chic suprême. De Ward, charmé, la regarda s'installer avec des gestes souples et précis. Il songea que si la dame se montrait abordable, le voyage ne serait pas ennuyeux. Pour entamer la conversation, il usa d'un moyen classique. « La fumée ne vous gêne pas, madame. »« Je fume moi-même, » dit-elle en souriant et en allumant une myrteau. La glace était rompue. Robert de Ward, beau garçon de 32 ans, d'une parfaite élégance vestimentaire, de manière racée, était un causeur séduisant. Il avait beaucoup voyagé, fréquenté les milieux les plus divers. Il égrena quelques souvenirs qui amusèrent la dame blonde, laquelle à son tour montra de la vivacité en parlant de sport et de littérature. Ils se reconnurent des préférences communes quant aux romanciers en vogue, et lorsque le steward sonna la cloche du déjeuner, ils s'acheminèrent vers le wagon-restaurant, où Robert lui demanda la permission de s'asseoir à sa table, à quoi elle consentit. C'est alors que le jeune homme s'aperçut que, dans le feu de l'abordage, ils avaient omis de se nommer. Il se présenta, elle fit de même. Madame Muriel Holton, américaine d'origine, mais élevée en France depuis son enfance, car son père y avait longtemps dirigé une banque. Après le déjeuner, qui fut gai, les deux voyageurs regagnèrent leur compartiment. L'entretien devint plus intime. Tous deux firent des allusions à leur vie. Madame Holton avait divorcé, après 3 ans d'un mariage déplorable. De Ward devint mélancolique. Il narra ses dernières déceptions amoureuses et tâcha de faire discrètement comprendre à sa compagne que son cœur cherchait des consolations et se sentait singulièrement touché par une certaine personne qu'un heureux hasard venait de mettre sur sa route. Muriel eut un sourire énigmatique que De Ward interpréta en sa faveur, et il commença de se montrer plus entreprenant en lui prenant la main, qu'il pressa contre ses lèvres. Elle le repoussa gentiment, mais lui, décidément très emballé, supplia. « Allons, ne soyez pas bégueule. Vous voyez bien que vous me plaisez follement. Ce n'est pas une raison suffisante. Est-ce que je vous déplais? Je ne dis pas cela. Mais vous ne voudriez tout de même pas m'avoir comme ça, en 5 minutes. Voilà 5 heures que nous causons. Eh bien, continuons. Vous parlez très bien. Parlez. Parlez, mais ne m'embrassez pas. » Il fit semblant de se résigner, mais se réserva sournoisement de reprendre à nuit tombée ses tendres escarmouches. Et ce fut l'armistice, où les deux adversaires eurent l'air de se plonger chacun dans la lecture, elle du prix Femina, lui du prix Goncourt. Le jour baissait, on approchait de Marseille. Dans la pénombre survenue, le jeune homme n'y tint plus et voulut reprendre les hostilités. À ce moment, Muriel se leva et monta sur la banquette pour chercher un objet dans sa valise. Il se précipita pour l'aider, mais elle, dans un chaos, perdit l'équilibre et tomba dans les bras de Robert qui l'enlaça, la renversa et posa sur sa bouche ses lèvres avides. Elle réussit à se dégager, ils se regardèrent, et Muriel essaya de rire. « Vous embrassez bien ?» dit-elle. « Alors, recommençons. Vous êtes fou, pas ici, voyons. » Un voyageur passait dans le couloir. Robert s'écarta. « Vous descendez à Marseille ?» demanda-t-il. « Oui, moi aussi. »« Ce n'est pas vrai, » dit-elle. « Votre billet porte Monte Carlo. J'ai vu cela quand vous l'avez remis au contrôleur. » « J'ai changé d'idée. Laissez-moi vous accompagner. »« Qui vous dit qu'à Marseille, je ne suis pas attendu par quelqu'un ?»« Alors laissez-le tomber et venez avec moi jusqu'à Monte Carlo. »« Vous ne doutez de rien, cher monsieur. Pour qui me prenez-vous »« Ne faites pas la prude. Vous ne le regretterez pas. Quelle fatuité. En tout cas, moi, je ne vous lâche pas. »« Eh bien, soyez heureux. Personne ne m'attend. Et regardez mon billet. Je vais plus loin que vous, en Italie, à Florence. »« Alors couche à Monte Carlo. » Avec vous, naturellement. Je n'ose pas l'espérer, mais je le souhaite ardemment. Écoutez, il est tard, dormons. À mon réveil, j'aurai peut-être changé d'idée. Vous descendrez à Monte-Carlo? Ce n'est pas impossible. Laissez-moi somnoler une heure ou deux, on verra. Devard eut un air penaud. Elle rit d'un petit rire perlé, se rencogna et ferma les yeux. De guerre lasse, le jeune homme en fit autant, et bientôt tous deux s'assoupirent au bercement du train qui, maintenant passé Toulon, côtoyait la Méditerranée. Devard eut un rêve singulier. Il lui parut qu'il se promenait dans un jardin tropical planté de grandes fleurs roses qui dégageaient un parfum suave et sucré, voisin de l'éther. Il sentit vaguement ses membres se raidir. Une torpeur subtile l'envahit, contre laquelle il essaya vainement de lutter. Il dut alors s'asseoir au pied d'un arbre aux larges feuilles. Une brume irisée emplissait peu à peu le jardin. À travers ce brouillard lumineux, il aperçut la silhouette de Muriel Holton montée sur des échasses, ce qui lui sembla risible. La jolie blonde s'approcha de l'arbre où il gisait, et au-dessus de sa tête, haussée sur ses échasses, il la vit cueillir des pommes d'or qui pendaient aux branches. Puis, avec une étonnante prestesse, les bras chargés de sa précieuse récolte, elle s'enfuit. Devard eut alors l'impression que les feuilles de l'arbre s'allongeaient de plus en plus. Bientôt, l'ombre opaque du feuillage le recouvrit complètement. Il l'étouffait, il voulut se dégager. Mais ses bras, ses jambes demeurèrent inertes. Il se mit alors à crier, à râler, et sentit soudain un choc brusque, comme si le tronc de l'arbre s'était abattu sur lui. Mais quelqu'un qu'il ne pouvait voir écarta le feuillage, le saisit par les bras et le malaxa si violemment que Robert ouvrit les yeux. Dans la demi-lumière, il entrevit un homme d'équipe coiffé d'une casquette qui le secouait comme un prunier. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-on arrivé ? » balbutia-t-il ahuri et somnolent. « Levez-vous, monsieur, » dit l'employé. « Vous êtes à Monte-Carlo. La voie est détériorée et le train ne va pas plus loin. Vous êtes sur une voie de garage. Tous les voyageurs sont descendus depuis une bonne demi-heure. Le trafic ne sera rétabli que demain matin. » Robert se dressa, s'étira. « Prenez mes valises, » dit-il au porteur. À ce moment, un gros homme d'aspect assez vulgaire, coiffé d'un chapeau melon, pénétra dans le compartiment. « Vous êtes bien, monsieur Robert Devard ? » demanda-t-il d'un ton rogue. Celui-ci fit un signe de tête, l'autre reprit. « Je suis le commissaire spécial de Monte-Carlo, et j'ai reçu un télégramme de Paris, signé Mick, inspecteur à la PJ, me donnant l'ordre de fouiller vos bagages. Vos clés, je vous prie. » Devard rougit de colère ou de crainte, on eût su le dire, et il tendit ses clés sans dire un mot. Son visage s'était soudain durci, et l'on sentait qu'il faisait un puissant effort pour se contenir. Le commissaire descendit, suivi du porteur et du jeune homme. Parvenu dans le bureau du policier, celui-ci ouvrit la première valise, la fouilla consciencieusement, puis l'abandonna et passa à l'autre. Une sorte de portefeuille à serrure, encastré dans le couvercle, attira son attention. Il l'ouvrit aussitôt avec une clé minuscule attachée au trousseau. Robert fit un mouvement. De rouge, il était devenu blême, mais le commissaire, tout à sa besogne, ne remarqua rien. D'une main fébrile, il explorait la pochette. « Vide, » murmura-t-il. Cette fois, Devard tressaillit violemment. Son visage exprima la stupéfaction. Le commissaire émit un juron. Ses mains trituraient, retournaient le contenu de la valise, rejetant, éparpillant cravates, chaussettes, chemises de soie. Devard s'était ressaisi. « Vous avez fini, monsieur le commissaire ? » interrogea-t-il d'un ton tranchant. L'autre répondit par un grognement inarticulé. « Et maintenant, voulez-vous me dire ce que signifie ce traitement inqualifiable ? Je pense que j'ai droit à des excuses. »« Pas encore. Veuillez me remettre votre portefeuille. »« Voici. » Le commissaire vida le portefeuille, qui contenait 3 billets de 1 000 francs et de menues coupures. Il palpa le veston, le gilet, le pantalon du voyageur, qui maintenant souriait d'un air ironique. « Est-ce bien fini ? » raya-t-il. « Eh bien, ces excuses ?»« Vous ne vous appelez pas Robert Devard ? » riposta le fonctionnaire. « Mais François Miro. »« Je m'appelle François Robert et Devard est le nom de ma mère. Cela justifie-t-il les sévices dont je viens d'être l'objet ?»« Allons, commissaire, un bon mouvement, des excuses et des explications. J'ai droit aussi. » Le policier, congestionné, regarda fixement le jeune homme. « Vous le voulez ? » ?»« Je l'exige. » « Eh bien, je vous exprime mes regrets. À la bonne heure, mes regrets, de n'avoir pas découvert dans vos valises ce qui aurait dû logiquement s'y trouver. »« C'est-à-dire quoi ? » ironisa Robert. « c'est-à-dire les 10 000 $ qui ont été soustraits la nuit dernière à votre voisin de chambre du Carlton Hotel, M. Ned Bannister, négociant à Chicago. Ah, vous êtes très fort, François Miro, mais nous finirons bien par vous pincer. » Robert éclata de rire. « Excellente plaisanterie. Au revoir, commissaire. Ah, aidez-moi à ranger toutes ces épaves. Vous me devez bien cela, non ?»«
Vous pouvez vous vanter d'avoir un fichu caractère, et vous avez de la chance que je prenne cette affaire à la blague. »
Le commissaire sortit en faisant claquer la porte et télégraphia à Mick l'insuccès de ses recherches. Robert remit tant bien que mal de l'ordre dans ses valises, appela un porteur et se dirigea vers la sortie.
« Dis donc, » interrogea-t-il en lui glissant une pièce de 20 francs dans la main, « il y a une heure, parmi les voyageurs débarqués du rapide, n'auriez-vous pas remarqué une jolie blonde, grande, mince, avec un manteau de léopard ?»
Le porteur cligna de l'œil et sourit.
« C'est justement moi qui lui ai porté ses valises à 100 mètres d'ici, à l'hôtel du Viaduc, à droite de la gare en descendant. »
5 minutes plus tard, il était près de minuit, Devard, en retenant une chambre, ajoutait
« Vous devez avoir dans l'hôtel une Madame Muriel Holton, une de mes amies. Elle m'a écrit qu'elle arriverait ce soir.
En effet, cette dame occupe la chambre numéro 12, au premier étage, » répondit le portier.
« Très bien, » dit Devard, « je la verrai demain. »
Et le jeune homme gagna sa chambre, située également au premier. L'hôtel du Viaduc était un établissement sans luxe où descendaient les voyageurs désireux de repartir le lendemain matin pour l'Italie. C'est apparemment pour ce motif que la dame blonde l'avait choisi. Vers 2 heures du matin, un silence complet régnait dans l'immeuble, car l'hôtel fermait à 00h30 après l'arrivée du dernier train de Vintimille. À ce moment, la porte de la chambre numéro 7, occupée par Devard, s'ouvrit lentement. Le jeune homme, en pyjama, s'avança pas feutré dans le couloir et s'arrêta devant le numéro 12. Durant quelques minutes, il étudia la serrure, puis, y introduisant une pince minuscule dite Ouistiti, il fit tourner la clé insérée de l'autre côté. Ensuite, avec des précautions infinies, il tourna le bouton, ouvrit et pénétra dans la pièce avec la légèreté d'une ombre. Un rayon de lune éclairait faiblement la chambre. Dans cette lueur diffuse, Robert aperçut Muriel dormant d'un profond sommeil, et plus loin, à terre, près de la commode, une valise ouverte. En rampant plutôt qu'en marchant, il mit longtemps à s'en rapprocher. Puis, avec une souplesse féline, sa main explora la valise. La dormeuse n'avait pas bougé. Au bout de quelques instants, Robert eut un sourire muet et satisfait. Il braqua sur la trouvaille le bref éclair d'une lampe électrique portative, glissa un paquet dans sa poche et, semblable à un fantôme, disparut, regagna sa chambre, se coucha et s'endormit avec le sentiment d'un homme qui n'a pas perdu sa soirée.
Chapitre 2. Le lendemain matin, vers 10 heures, Devard descendit dans le hall vestibule, se plongea dans la lecture d'un journal de façon à masquer son visage, et attendit. Une demi-heure plus tard, Muriel, fraîche et pimpante, précédée du valet portant sa valise, descendit à son tour. Tandis qu'elle réglait sa note devant le bureau comptoir, Robert se leva en tapinois, s'avança vers elle, et au moment qu'elle se retournait, la salua d'un « charmé de vous revoir, chère madame », en balayant son feutre jusqu'à terre. Elle inclina machinalement la tête, interloquée. « Voudriez-vous me faire la faveur de quelques minutes d'entretien ?» poursuivit-il. Sans répondre, elle pénétra dans le reading room qui servait à la fois de salon, de fumoir et de salle de correspondance. « Madame, » murmura Devard, « que diriez-vous si je vous faisais arrêter ?» Muriel pâlit, Robert continua. « Qui diable eût pu, sous cette exquise enveloppe, sous ces délicates façons, soupçonner une écumeuse de train de luxe ?»« Mes compliments, Muriel. Vous m'avez chloroformé et dévalisé selon toutes les règles de l'art. »«
Eh bien, dénoncez-moi, » dit enfin la femme, d'une voix altérée.
« Asseyons-nous, » proposa tranquillement Robert, et changeant brusquement de ton. « Écoute, ma petite, tu as une sacrée veine. Sais-tu pourquoi je ne te fais pas coffrer ?»«
D'abord, parce que c'est la première fois qu'on me roule et je trouve ça épatant. »
Muriel, cette fois, le regardait avec une curiosité intense, frappée de cette familiarité subite, où elle démêlait on ne sait quel accent fraternel. « Ensuite, » poursuivit-il, « je ne te signalerai pas à la rousse, parce que ces gens-là me dégoûtent et que toi, tu me plais énormément depuis la première minute. » Muriel sourit. « Enfin, » ajouta-t-il, « si je te dénonçais, je serais un ingrat, car sans le vouloir, tu m'as rendu un immense service. » Cette fois, la voleuse ouvrit des yeux stupéfaits. « Oui ? Ces 10 000 $ me gênaient considérablement cette nuit vers 11 heures, et il est heureux pour moi qu'ils aient émigré de ma valise dans la tienne. Tu as l'air sidéré. Tu ne comprends pas.
Ça ne fait rien.
Merci quand même.
D'autant plus que j'espère bien que tu vas me les rendre.
Non, tu ne veux pas. Tu veux garder le fric.
Méchante petite fille.
Allons, ouvre ta valise, rends-moi ça.
Tu refuses?
Eh bien, tu as raison. Ce n'est pas la peine, car tes billets, les voilà.
Et de Barde tira une épaisse liasse de banknotes de sa poche.
À ce coup, la femme eut un cri de stupeur. D'une voix sifflante, elle lança. Oh, comment avez-vous pu? Qui êtes-vous donc?
Ton maître, dit froidement l'homme, en la regardant au fond des yeux.
Alors tu as cru que François Miro, dit Robert de Barde, allait se laisser enrôler.
Pas de chance, mon petit. Tu es tombé sur un bec de gaz.
Faut prendre ça avec le sourire. Ne serre pas les dents comme ça. On dirait que tes jolies mirettes sont de poignards.
T'en fais pas, je te dis, d'autant que...
Quoi?
Que ce fric-là, nous allons le dépenser ensemble.
Viens, ma gosse, je t'emmène à Nice, au Negresco. Ici, ça sent la rousse et le roussi. Là-bas, ce sera bien le diable si à nous deux, nous ne dégoûtons pas une ou deux poires bien juteuses pour notre dessert.
François Miro, vous?
Dit Muriel d'une voix extasiée.
Ça, vraiment, c'est inattendu.
Tu peux me tutoyer, ça me fera plaisir.
Eh bien, figurez-vous.
Figure-toi que mon père, qui était receleur à Londres et ensuite à Paris, m'a souvent parlé de toi avec admiration.
François Miro, un as de la pègre internationale, disait-il.
Alors moi, j'avais toujours rêvé de te connaître.
Ayant terminé ce récit, Mick alluma une cigarette.
Comment diable, lui dis-je, connaissez-vous les détails de cette histoire?
Parce que j'ai eu l'occasion plus tard, au moment de l'affaire Prince, de questionner François Miro qui était mêlé à cette bande suspecte que la justice a relâchée faute de preuves. Miro, qui est un crâneur, assez sympathique d'ailleurs, s'est déboutonné et il a eu le culot de me raconter cette anecdote de sa vie.
Et il a avoué son vol de 10 000 $ et vous ne l'avez pas arrêté?
Le bougre savait ce qu'il faisait, il avait prescription.